France Inter, le 7-10.
Et Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est directeur général délégué de l'Institut Ipsos.
Qui mène pour le Cevipof, l'Institut Montaigne, la Fondation Jaurès et Le Monde, une très très vaste étude auprès de 11 700 personnes, échantillonnage infiniment plus conséquent et robuste que les habituels sondages. Une photographie de l'opinion française à moins de 100 jours des élections européennes qui donne Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National, à 31% des intentions de vote, 13 points devant la majorité présidentielle, évaluée à 18%, c'est-à-dire sous ce seuil symbolique des 20%. Bonjour Brice Teinturier.
Bonjour.
Ce scrutin européen n'aurait donc rien à voir avec le duel annoncé entre le camp macroniste et le camp lepéniste ?
Si, il a quand même à voir, puisque véritablement on a maintenant une dynamique du RN qui est très très forte et qui se fait en grande partie au détriment des macronistes. Et vous avez raison de souligner que le passage en dessous de la barre symbolique des 20% est un point important, mais c'est surtout l'écart aujourd'hui qui stupéfie. En 2019, le RN était arrivé un point devant la liste macroniste. Aujourd'hui, nous avons, dans cette enquête, on verra le jour du scrutin, mais 13 points d'écart et véritablement un renforcement du RN sur toutes les dimension qu'on peut traditionnellement observer. Non seulement il est puissant dans ses bases traditionnelles, les milieux populaires, les ouvriers, les employés, j'ai envie de dire plus puissant que jamais, 58% chez les ouvriers, plus de 40% chez les employés. Mais il élargit sa base maintenant, il commence à conquérir une partie des classes moyennes, et c'est là où la dynamique...
Une percée chez les cadres supérieurs.
Un début de percée tout à fait chez les cadres supérieurs. Des indicateurs très classiques d'habitude du vote RN sont là en train d'évoluer, par exemple le niveau de revenus, où on voit que les foyers qui gagnent jusqu'à 3 000 euros, 3 500 euros, votent pratiquement tous dans la zone des 30% pour le RN. Alors qu'avant, plus le foyer augmentait en revenus, plus le vote RN diminuait. Là, il faut attendre vraiment des revenus à plus de 3 500 euros pour que le RN commence à baisser.
Le niveau d'études également.
Alors, le niveau d'études reste quand même très structurant. Ça, c'est une variable qui reste importante. Si vous êtes à Bac plus 5, vous ne votez pas ou très peu pour le Rassemblement National. Si vous n'avez aucun diplôme, vous votez massivement pour le Rassemblement National. Et là, il y a une variable qui reste toujours pertinente. Mais ce qu'on voit, c'est que la logique de revenus, la logique de catégorie sociale, le fait d'être ouvrier ou cadre supérieur qui avant était extraordinairement discriminant, le devient moins. Et donc, le RN reste puissant là où il était puissant, dans les milieux populaires, mais s'étend chez une partie des classes moyennes.
L'indicateur central, écrivez-vous, Brice Teinturier, dans Le Monde, c'est le malaise. 58% de ceux qui ne sont absolument pas satisfaits de leur vie optent pour la liste RN. 58%. Qu'est-ce que ça signifie ? Que seul le Rassemblement National prend ce malaise en compte ou donne l'impression de prendre ce malaise en compte ?
Oui, en très grande partie, c'est bien cela. Alors cet indicateur que le Cevipof avait pointé déjà depuis quelques années, il est très pertinent. Si vous êtes insatisfait de votre vie, vous votez véritablement beaucoup plus pour le Rassemblement National. Si vous êtes absolument satisfait de votre vie, vous votez pour la liste macroniste. Donc ça joue beaucoup et cela montre bien que celui qui incarne, qui est le réceptacle de ce sentiment que ça ne va pas, que notre vie ne va pas, etc., c'est le Rassemblement National. Ce n'est pas la France Insoumise, c'est le Rassemblement National. Et pour le coup, ça date maintenant depuis quelques années, mais ça se renforce, c'est bien le RN qui apparaît comme celui qui capte le mieux ce qui ne va pas dans ce pays, en tous les cas pour une
mais
partie
alors,
de plus en plus substantielle.
Quid de l'Europe dans ce vote Rassemblement National ? Parce que Yael vient de le souligner, 73% des sondés se disent favorables au projet européen. Ça veut dire que les Français sont massivement favorables à l'Europe. Le vote Rassemblement National, c'est un vote pour ou anti-européen ou c'est un vote anti-Macron.
Alors, je ne dirais pas déjà que les Français sont massivement favorables au projet européen, parce que dans ceux qui nous se disent favorables au projet européen, vous en avez une part substantielle qui dit, mais pas tel qu'il est mené actuellement. Donc oui, il y a un désir très majoritaire de rester dans l'Europe, mais à condition de beaucoup changer la façon dont elle fonctionne et son orientation.
Et ça, c'est le vote de Rassemblement National.
Alors, chez le Rassemblement National, c'est beaucoup plus critique encore. Non, chez les électeurs du Rassemblement National, l'Europe est effectivement, pour plus de la moitié de ces électeurs-là, quelque chose qui ne va pas et on éprouverait même un vif soulagement à l'idée que ça cesse.
Et alors la part du vote anti-Macron ?
Mais c'est le deuxième moteur, avant même le moteur effectivement de la relation à l'Europe, c'est le vote sanction à l'égard d'Emmanuel Macron. Et là pour le coup c'est aussi très très frappant, on voit bien que c'est l'ERN qui capte le vote anti-Macron, très massivement ses électeurs, et c'est ce qui les distingue des autres, votent en fonction de considérations nationales et pas européennes, et dans les considérations nationales, très massivement aussi, ils veulent sanctionner Emmanuel Macron.
Et la rétractation du camp présidentiel alors, puisque vous l'évaluez autour de 18% des intentions de vote. Ça signifie quoi, puisque ça baisse? Où vont ces électeurs? Est-ce qu'ils partent ailleurs? Vous indiquez une petite percée de Raphaël Glucksmann, 0,5% qu'il prendrait d'intention de vote au camp présidentiel. Mais vous dites surtout, ce sont des gens qui ne se mobilisent pas ou peu.
Alors, il y a un enjeu de mobilisation, effectivement, puisqu'aujourd'hui, les électeurs de la Macronie, entre guillemets, sont mobilisés à peu près au même niveau que ceux du Rassemblement National. Alors que d'habitude, ils ont une force de mobilisation beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, due notamment au fait que c'est cette force politique qui draine le vote des plus âgés. Et là, je ne l'ai pas encore dit, mais aussi au niveau du Rassemblement National, une des spécificités, c'est qu'il faut attendre les 70 ans et plus, et non pas les 60 ans et plus, pour qu'on baisse en termes de vote pour le RN. C'est-à-dire que le RN capte aussi de plus en plus le vote des plus âgés, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Et à la présidentielle, c'était bien Emmanuel Macron qui captait les plus âgés. Là, il baisse aussi, il se rétracte, il est à un niveau extraordinairement faible chez les actifs et chez les plus jeunes. Et ce qu'on voit, pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement, il y a de la déperdition à la fois sur le flanc gauche, c'est-à-dire qu'une partie des électeurs de la présidentielle d'Emmanuel Macron vote pour Raphaël Glucksmann notamment, et puis également sur la droite et en direction notamment de la dynamique du bloc d'extrême droite.
Ça signifie que l'entrée en campagne d'une tête de liste, Valérie Ayer, n'a pas eu d'effet? Ça signifie que les attaques frontales dont parlait Yaël il y a un instant, qualifiant les troupes du RN de soldats de Poutine marchant sur la frontière, n'ont pas eu d'effet?
À date, zéro effet. Maintenant, l'enquête a été réalisée juste au moment où Valérie Ayer était nommée tête de liste. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas connu des Français, et je ne pense pas que cela soit la clé d'une redynamique du vote RN.
La droitisation de la politique d'Emmanuel Macron, qui est largement commentée mais pas assumée par le gouvernement, quel effet elle produit en réalité sur ses intentions de vote?
Eh bien, je pense qu'il y a là un nœud, que vous mettez le doigt sur un nœud important, c'est-à-dire que de plus en plus, les Français considèrent que le gouvernement obéit à un tropisme de droite, mais ce n'est pas dit tel quel par le gouvernement, donc il ne bénéficie pas de ce que bénéficiait par exemple Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire drainer et incarner un vote de droite, et en même temps, c'est le cas de le dire, il ne bénéficie plus de la force propulsive et de gauche et de droite, et du coup, il me semble qu'il perd sur les deux tableaux, et que la mise en scène d'un affrontement absolu avec le RN lui est fortement dommageable.
L'émiettement de la gauche, c'est l'autre enseignement de cette étude. On va donner les chiffres. La liste PS Place Publique menée par Raphaël Glucksmann à 11,5. Europe Écologie Les Verts à 8,5. La France Insoumise à 7. Et puis le Parti Communiste, loin derrière, à 3,5. La gauche va payer ses divisions et ses fractures?
Oui, mais il se passe quand même quelque chose, parce que le bloc de gauche reste à peu près au même niveau, on va dire dans la zone des un tiers des suffrages. En revanche, vous l'avez noté, c'est la liste menée par Raphaël Glucksmann qui est en tête, qui fait la course en tête. Donc on n'est plus du tout dans l'équation de la présidentielle avec un Jean-Luc Mélenchon qui était très largement dominant dans l'espace des gauches. On est même sur les européennes, sur une redistribution des cartes, avec une France insoumise dans la zone des 7%, à peu près son score de 2019.
Ça signifie que la France insoumise a fait évaporer ce capital électoral engrangé au moment de la présidentielle?
Je crois que cela veut dire deux choses. Quand ce n'est pas une présidentielle et Jean-Luc Mélenchon, on voit bien que la France insoumise revient plutôt à un étiage traditionnel. Et puis ça veut dire aussi que depuis la présidentielle, et ça on le voit dans toutes nos enquêtes, Jean-Luc Mélenchon lui-même a beaucoup baissé. Il a aujourd'hui un taux de jugement extrêmement négatif qui est parmi les plus forts. Donc il y a une stratégie, la France insoumise, qui n'est pas validée, au contraire, par les électeurs et par les électeurs de gauche, et c'est plutôt celle de Raphaël Glucksmann qui va dans le bon sens.
Merci Brice Teinturier.
Merci à vous.
Et merci Sonia De Villers.